Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 10 octobre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Carnage à Kunduz, le leader réagit. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Oyatollah Khamenei exhorte les responsables de l'Afghanistan à punir les auteurs de l'attentat de vendredi. Amir Abdollahian rencontre Bachar al-Assad à Damas. La donne a changé au profit de Damas, a dit le très haut diplomate iranien. Et puis l'Iran reproche à l'Agence internationale de l'énergie atomique de ne pas avoir condamné un acte de sabotage contre son site nucléaire de Karaj le 23 juin. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique iranienne a appelé les responsables afghans à traduire en justice les auteurs de l'attaque meurtrière d'une mosquée en Afghanistan. L'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei a exhorté les autorités afghanes à prendre des mesures pour empêcher de telles agressions et crimes. Le président iranien a également dénoncé l'attaque qui, selon lui, visait à semer la discorde parmi les musulmans. Ebrahim Raisi a noté que le terrorisme takfiri s'est développé grâce au soutien des États-Unis. Il a déclaré que Washington avait préparé le terrain pour les activités terroristes Daesh dans ce pays déchiré par la guerre. Ce n'est un secret pour une personne que la croissance et le développement de ce courant terroriste takfiri ont eu lieu avec le soutien et les plans des États-Unis, ce qui a facilité les conditions de la propagation des activités des criminels de Daesh en Afghanistan ces dernières années et a empêché leur éradication, a-t-il insisté. Le président du Parlement iranien, Mohammad Borrell Ghalibov, réagissant pour sa part au drame, a exprimé ses condoléances à la nation afghane et à ceux qui ont perdu leurs proches, tout en appelant les nouvelles autorités du pays à agir de manière décisive contre les coupables et à empêcher la répétition d'atrocités aussi douloureuses visant des personnes de différentes religions. Un kamikaze a attaqué vendredi une mosquée dans la province de Kunduz, dans le nord-est de l'Afghanistan, tuant au moins 46 personnes et en blessant plus de 140 autres. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attentat. Sachez également que les talibans ont averti Washington de ne pas déstabiliser le régime, alors que les deux parties tiennent leur premier pourparlers face à face depuis le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Lors des entretiens directs tenus au Qatar, les deux parties ont également discuté de l'aide humanitaire et des vaccins contre le Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères par intérim des talibans, le Mollah Amir Khan Mottaki, a déclaré que sa délégation avait demandé à Washington de lever son interdiction sur les réserves de la Banque centrale afghane. Les responsables américains ont déclaré que les pourparlers ne portaient pas sur la reconnaissance des talibans en tant que dirigeants afghans, mais sur des questions d'intérêt national pour Washington. La réunion devrait se poursuivre dimanche. L'actualité iranienne, Hossein Amir Abdollahian rencontre Bachar al-Assad à Damas. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu avec le président syrien Bachar al-Assad à Damas. Amir Abdollahian est arrivé vendredi matin dans la capitale syrienne de Damas, troisième destination de sa tournée régionale après la Russie et le Liban, a rencontré le président syrien Bachar al-Assad. À son arrivée dans la capitale syrienne, le très haut diplomate iranien a déclaré « Les relations de l'Iran avec la Syrie sont stratégiques et nous essayons d'étendre notre coopération avec ce pays dans tous les domaines. La Syrie se développe et nous soutiendrons à nouveau fermement le pays comme nous l'avons soutenu à l'ère de la lutte contre le terrorisme. La donne a changé en faveur de la Syrie », a-t-il insisté. Ces dernières semaines, des accords importants ont été conclus sur le développement global des relations irano-syriennes, a-t-il ajouté. Nos accords bilatéraux seront mis en œuvre rapidement et les deux nations en bénéficieront, a-t-il encore déclaré. Il s'agit de la deuxième visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Syrie depuis son entrée en fonction. Vérifier la levée des sanctions américaines, défi majeur dans toute négociation visant à relancer l'accord nucléaire, insiste Hossein Amir Abdollahian. L'Iran a déclaré qu'un problème majeur dans toute négociation visant à relancer l'accord nucléaire iranien 2015 persiste. Il s'agit des moyens de vérifier la levée des sanctions anti-Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que son pays exigeait les garanties nécessaires pour la mise en œuvre des engagements des parties occidentales liés à l'accord. L'Iran et les autres signataires du plan global d'action conjoint sur le nucléaire PGAC ont jusqu'à présent tenu 6 séries de pourparlers pour le rétablissement de l'accord. La République islamique devrait annoncer la date du 7e tour dans les semaines à venir. Téhéran affirme que l'accord ne peut être sauvé que si toutes les sanctions sont levées et que toutes les parties reviennent au plein respect de leurs obligations. L'Iran a reproché à l'Agence internationale de l'énergie atomique de ne pas avoir condamné, je vous lisais en titre, un acte de sabotage contre son site nucléaire de Karaj le 23 juin. Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, Mohammad Islami, a déclaré que l'AIEA, avec son silence, encourageait efficacement ce type d'attaque terroriste. Il a ajouté que l'agence n'était pas autorisée à remplacer les caméras endommagées, comme l'exige l'accord sur le nucléaire iranien, en raison du non-respect des obligations pertinentes par les États-Unis et les Européens. Islami a noté que l'Iran ne tolérera pas le double standard de l'AIEA. Il a également souligné que l'Iran poursuivait son programme nucléaire civil, ajoutant que le pays disposait désormais de plus de 120 kg d'uranium enrichi à 20%. Il a déclaré que l'Iran maintiendrait son autonomie dans l'approvisionnement en combustible du réacteur de recherche de Téhéran. Sanaa critique le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour avoir abandonné son enquête sur les crimes de guerre commis par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen. Le ministère yéménite des Affaires étrangères a qualifié cette décision de mépris du droit international humanitaire et de honte pour le Conseil. Il a déclaré que Riyad et ses alliés ne parviendront pas à cacher leurs atrocités au Yémen. Le ministère a averti que ne pas prolonger l'enquête donne aux agresseurs le feu vert pour poursuivre leurs crimes en toute impunité. Jeudi, l'organe suprême des droits des Nations Unies a annoncé la fin de son enquête sur les crimes de guerre au Yémen. La décision a déjà suscité de vives critiques de la part d'un certain nombre de pays et d'organismes de défense des droits de l'homme. Les bureaux de vote sont ouverts en Irak pour une élection anticipée qui se tiendra en réponse aux manifestations de rue de 2019. Il s'agit des cinquièmes élections législatives depuis l'éviction de l'ancien dictateur Saddam Hussein en 2003. Près de 25 millions d'Irakiens sont éligibles pour voter. Environ 3 500 candidats, dont un millier de femmes, briguent 329 sièges au Parlement. Les résultats préliminaires sont attendus lundi. Le plus haut responsable religieux chiite d'Irak, le grand Ayatollah Ali Sistani, a appelé à une large participation électorale. La sécurité est stricte, tous les aéroports étant fermés jusqu'à lundi matin dans tout le pays. Plus de 250 000 agents de sécurité ont été déployés pour sécuriser les bureaux de vote à travers l'Irak. Enfin, le ministre français de l'Intérieur a appelé à l'ouverture de pourparlers en vue d'un traité migratoire entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Gérald Darmanin a déclaré qu'il était nécessaire de négocier les questions de migration puisque Michel Barnier, l'ancien négociateur en chef du Bloc, ne l'a pas fait lorsqu'il a négocié le Brexit. Darmanin a souligné que la France pilotera le projet lorsqu'elle prendra la présidence tournante de l'Union européenne en janvier. Il a également exhorté le gouvernement britannique à tenir sa promesse de financer la lutte contre les immigrants illégaux qui se rassemblent sur la côte nord de la France pour passer en Angleterre. La question du trafic de migrants outre-Manche a été une source constante de friction entre Paris et Londres. La France dit qu'elle supporte actuellement les coûts du maintien de la sécurité des frontières au milieu de la migration illégale. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous, merci. Le nombre de victimes de l'attaque terroriste de Daesh contre la mosquée Sayyedabad à Kunduz est passé à 150 morts et 200 blessés. Des sources sanitaires dans la province de Kunduz a déclaré que le bilan des morts d'un attentat suicide contre la mosquée de Sayyedabad dans la capitale provinciale vendredi était passé à plus de 150 morts et environ 200 blessés. Un médecin de l'hôpital de Kunduz l'a confirmé dans un entretien au quotidien Etela Aterouz. Parmi les victimes de cette attaque figurent des enfants. Les corps des victimes ont été enterrés aujourd'hui. L'attentat suicide contre la mosquée Sayyedabad a eu lieu vendredi à midi lors de la prière du vendredi. Daesh a revendiqué l'attaque, affirmant qu'elle visait la grande mosquée des chiites. Dans ce droit fil, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souligné dans un message le châtiment des auteurs de ce crime horrible et la prévention de la répétition de telles tragédies. L'incident tragique de l'explosion dans la mosquée du district de Khanabad de la province de Kunduz, qui a entraîné la mort d'un grand nombre de fidèles, nous a attristés. On attend des responsables du pays voisin et frère de l'Afghanistan qu'ils punissent les auteurs sanguinaires de ce grand crime et prennent les mesures nécessaires pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Je demande à Dieu Tout-Puissant miséricorde et exaltation pour les martyrs de cet incident et un prompt rétablissement pour les blessés ainsi que patience et paix pour les survivants. Par ailleurs, les talibans ont déclaré qu'ils ne coopéreraient pas avec les États-Unis dans la lutte contre l'extrémisme en Afghanistan. Les talibans combattront l'extrémisme, y compris Daesh, en Afghanistan de manière indépendante et ne coopéreront pas avec Washington à cet égard, a déclaré à l'Associated Press Sohail Shaheen, le représentant des talibans auprès des Nations Unies. Il a souligné que les talibans sont capables à eux seuls de combattre et d'éliminer Daesh en Afghanistan. Une délégation américaine doit rencontrer de hauts responsables talibans dans la capitale qatari, Doha, samedi et dimanche matin, a rapporté Reuters, citant un responsable américain. La délégation américaine est composée du département d'État, des agences de renseignement américains et de la force d'assistance étrangère et devrait consulter les talibans sur la sortie en toute sécurité des citoyens américains restant en Afghanistan. Le gouvernement américain affirme que des dizaines de citoyens américains restent toujours en Afghanistan et n'ont pas pu quitter le pays.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran était prêt à reprendre les négociations nucléaires après une récapitulation des précédents pourparlers. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à débloquer à 10 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés dans les banques étrangères pour prouver en effet leur bonne volonté. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré qu'un retour imminent au pourparlers s'avérait nécessaire dans les circonstances actuelles. A rappeler que depuis avril, l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire de 2015 ont tenu 6 séries de pourparlers, mais ces négociations sont à l'heure actuelle bloquées en raison des demandes excessives, notamment des États-Unis, en particulier la mise en avant des questions qui n'ont rien à voir avec l'accord lui-même. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser, en effet, décrypter les principaux enjeux de ces questions autour de l'avenir de l'accord nucléaire de 2015. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a fait part du retour des Iraniens aux négociations de Vienne sur le nucléaire après une récapitulation. Le gouvernement du président Raisi est un gouvernement pragmatique qui s'appuie sur les résultats acquis, a-t-il ajouté. Pendant que nous récapitulons nos examens, les parties adverses devront faire preuve de leur véritable volonté de remplir leur part du contrat. Si les Américains ont de réelles intentions de sauver l'accord, qu'ils libèrent une partie de nos avoirs, par exemple 10 milliards de dollars gelés dans des banques étrangères, et les restituent à l'Iran, avait déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. En visite à Moscou, Amir Abdollahian a souligné lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe que la République islamique d'Iran était pour un dialogue qui aboutit à un résultat tangible et qui assure les intérêts de la nation iranienne et qui pousse toutes les parties à revenir à leurs engagements. Il a dit qu'il s'attend à ce que les négociations commencent bientôt dans la capitale autrichienne et le ministre russe des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré que la communauté internationale attendait que les États-Unis reviennent à leurs obligations en vertu de l'accord. Lavrov a déclaré que Washington devrait mettre fin aux restrictions illégales sur l'Iran et tous ses partenaires commerciaux. Téhéran et les autres signataires ont tenté de sauver l'accord depuis que les États-Unis s'en sont retirés unilatéralement avant de réimposer des sanctions les plus cruelles extra-régionales en 2018 contre l'Iran. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord multilatéral en 2018 et ont réimposé des sanctions contre l'Iran. Les pourparlers sur la relance de l'accord restent bloqués en raison des demandes excessives de la part des États-Unis et de leurs alliés.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et bonjour à Luc Michel. Toujours un plaisir.
Maître Develet, lors de ses récents déplacements à Moscou, mais aussi à Beyrouth, le chef de la diplomatie iranienne a réitéré le positionnement de la République islamique d'Iran au sujet des pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015. Bien sûr, pour la République islamique d'Iran, comme l'a récemment souligné, ce qui compte, ce ne sont pas les paroles, mais les actes pratiques. Et dans ce contexte, M. Amir Abdullahian a exigé que les États-Unis, pour prouver leur bonne volonté, en effet, comme un premier pas dans ce sens, débloquent 10 milliards de dollars d'avoir iraniens gelés dans les banques étrangères. Ceci étant dit, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une reprise des pourparlers dans les prochains jours, voire prochaines semaines?
Oui, je pense qu'on peut s'attendre à des reprises de pourparlers. Maintenant, la question qui se pose, et vous l'avez parfaitement posée dans votre introduction, c'est la véritable intention des États-Unis de faire preuve de bonne foi en ce qui concerne leur retour dans cet accord qu'ils ont quitté unilatéralement, violant ainsi leurs obligations, et en essayant ensuite de dénaturer l'accord initial en ouvrant des nouveaux chapitres de négociation sur des sujets absolument connexes qui n'ont absolument rien à voir avec ce pourquoi les parties avaient signé donc l'accord en juillet 2015. J'ajouterais à cela que la situation a considérablement évolué depuis la signature de l'accord. Qu'entre-temps, la République islamique d'Iran a fait non seulement face à des tentatives de pression maximale pour emprunter le nom de la doctrine mise en place par l'administration Trump, mais que sur un plan multilatéral, elle a réussi aussi à diversifier ses alliances, consolider son statut dans le bloc eurasiatique, avec la récente adhésion au groupe de Shanghai. Cet accord bilatéral massif sur 25 ans avec la République populaire de Chine qui s'étend à beaucoup de domaines, que ce soit économique, énergétique, sécuritaire, culturel. Et vous l'avez souligné ici en ouverture, suite à la visite initiale, inaugurale du chef de la diplomatie iranienne à Moscou, on apprend maintenant que, par le biais d'une déclaration conjointe, les deux pays vont maintenant probablement travailler sur le pendant de cet accord avec la Chine. Donc ce sera certainement un accord multilatéral avec la Russie qui approfondira la relation bilatérale tant au niveau des échanges commerciaux que des échanges, que la coopération sécuritaire dans la région de l'Asie occidentale et du Caucase. Donc dans ce contexte élargi et considérablement modifié, l'administration du président Raisi est une administration pragmatique qui ne souffre pas des jeux sémantiques que les Américains, auxquels les Américains s'adonnent. Dans l'absolu, bien sûr, un retour à l'accord nucléaire est tout à fait envisageable. Encore faut-il que les Américains, comme vous le disiez encore une fois en ouverture, fasse preuve de bonne volonté, et l'un des signes forts qui serait envoyé de Washington serait de débloquer ces 10 milliards qui sont bloqués effectivement dans une banque en Corée du Sud.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe. Et c'est un plaisir de retrouver Maître Develet également. Le plaisir est réciproque.
Monsieur Develay l'a rappelé, le gouvernement de Monsieur Raisi est un gouvernement pragmatique et bien sûr son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Amir Abdullahian, a souligné que l'Iran, en effet, était pour des négociations qui aboutissent à des résultats tangibles. En d'autres termes, il faut que les autres partenaires honorent strictement et à la lettre leurs obligations en vertu de l'accord nucléaire de 2015. Bien sûr, comme Maître Develay l'a rappelé, alors ces derniers temps, la situation géopolitique a évolué, entre autres, cette adhésion à part entière de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai ou encore, alors, cet élan dans les relations Téhéran-Moscou. Ceci étant dit, et eu égard à ces évolutions, alors, quel regard portez-vous sur l'avenir, la reprise et l'avenir de l'accord nucléaire de 2015? Est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que les États-Unis réintègrent de manière honnête et concrète l'accord nucléaire de 2015?
Écoutez, je le souhaite pour votre pays, mais je dois dire que je suis sceptique. Il y a encore quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, a déclaré que ce retour aux accords de Genève était douteux, et il a dit d'ailleurs que c'était l'Iran qui démultipliait les obstacles. En réalité, comme votre diplomatie le démontre, seul l'Iran est de bonne foi dans tout cela. Ni les États-Unis, ni ses partenaires occidentaux ne sont de bonne foi. Et votre diplomatie insiste également sur le fait que ce n'est pas l'Iran qui menaçait avec la prolifération nucléaire le Proche-Orient, mais au contraire Israël, qu'au contraire l'Iran était pour un Proche-Orient sans armes nucléaires. Les Occidentaux sont particulièrement hypocrites puisque c'est eux qui ont doté Israël de l'arme nucléaire. Ce sont les Français avant 1967, contrairement à la légende, De Gaulle n'est devenu pro-arabe qu'après la guerre des six jours. Au début des années 60, il a offert la technologie nucléaire à Israël, ainsi que l'uranium. Et au contraire, les Américains ne sont devenus pro-israéliens qu'après la guerre de 1967. Mais depuis, ils se sont rattrapés puisqu'ils ont fourni des missiles Pershing qui ont été modifiés par les Israéliens, qui portent chacun plusieurs têtes nucléaires. Et ces missiles Pershing sont abrités sur des sous-marins de poche allemands de la classe Dolphin qui ont été fournis sciemment par Mme Merkel et son gouvernement. Il y a eu quelques années un scandale qui a été révélé par l'hebdomadaire Der Spiegel qui a publié les photos de la livraison et des sous-marins de poche allemands dans le port d'Haïfa en Israël. Ce sont des sous-marins qui sont déployés en mer Rouge, dans le golfe Persique, mais également en Méditerranée, et qui menacent tous les voisins d'Israël, y compris les pays européens. C'est cela la soi-disant bonne foi occidentale. C'est cela en réalité les obstacles qui n'existent pas, au contraire, la bonne volonté de l'Iran.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, Monsieur Michel. Maître Develay, donc on assiste malheureusement à des déclarations et positions contradictoires de la part des États-Unis. Et ces derniers jours, malheureusement, certains responsables américains ont tenté de porter la responsabilité de l'impasse actuelle des négociations de Vienne sur la République islamique d'Iran. En ce qui concerne les Européens, là aussi, malheureusement, alors la plupart d'entre eux, les signataires de l'accord nucléaire jouent pour une quelconque raison, en effet, le jeu des Américains. À qui profiterait, Maître Develay, ces tergiversations, voire cette incertitude autour de l'accord nucléaire? Plutôt de la relance de l'accord nucléaire.
Michel y a fait parfaitement allusion. La partie qui bénéficierait d'une impasse serait probablement l'État sioniste, puisqu'elle pourrait ensuite invoquer le fait que l'Iran faisait preuve de mauvaise volonté, qu'il n'a jamais été question pour l'Iran de négocier et de parvenir à un accord, alors que dans les faits, si on examine la situation chronologiquement, on réalise que c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que les Américains ont tout fait pour quelque part faire en sorte que l'accord n'aboutisse pas, que ce soit dès la signature de l'accord en 2015, lorsque, de toute façon, il aurait fallu probablement 6 mois à 1 an pour que l'effet de la levée des sanctions soit senti et concrètement apprécié par le peuple iranien, qui est quand même le premier concerné par les sanctions depuis plus de 40 ans maintenant, mais aussi par la suite avec le retrait unilatéral, bien sûr, en mai 2018 de Donald Trump, sous prétexte de négocier un nouvel accord qui aurait eu pour but final d'intégrer le programme balistique de la République islamique d'Iran, programme balistique qui, rappelons-le, et l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran lui-même l'avait souligné dans l'une de ses conférences, que sans ces moyens de défense balistique, c'est la souveraineté iranienne elle-même qui aurait été mise à bas. Donc c'est une demande excessive. Et quant à, si je puis dire, la soi-disant influence maligne de la République islamique d'Iran dans la région, rappelons que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, c'est l'Iran, la Russie, la résistance libanaise et la République arabe syrienne, auxquelles j'ajouterai maintenant la résistance yéménite, qui ont combattu avec succès le terrorisme takfiriste créé de toutes pièces par les Occidentaux et leurs relais régionaux. Donc tout le narratif lui-même est complètement biaisé. La chronologie des événements elle-même est complètement interprétée de manière unilatérale. Quant aux Européens, bien qu'ils aient essayé, si je puis dire, de jouer le rôle d'un trait d'union entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, ils ont essayé de laisser entendre qu'il y aurait moyen de contourner les sanctions ou les sanctions secondaires en mettant en place un système de troc, le fameux INSTEX. Bon, le fameux INSTEX n'a jamais été mis en œuvre. Donc tout ça participe d'une espèce de théâtre d'ombre. Et en cela, on peut peut-être s'interroger sur cet article qui avait été publié dès 2010 par ce centre de réflexion washingtonien, le centre pour le Nearest Policy, hein, qui avait mis en avant l'idée pour essayer de retarder, si je puis dire, le progrès technologique de l'Iran, de mettre en place un jeu diplomatique qui permettrait de mettre beaucoup d'obstacles sur l'enrichissement et sur le développement des centrifugeuses, et que quelque part, on se demande si toute cette séquence diplomatique qui remonte maintenant à 2013, depuis la première élection du président Rouhani, n'a pas été en fait que l'exécution de ce plan.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Michel, alors... la République islamique d'Iran a fait preuve d'une patience stratégique, même après le retrait des États-Unis en mai 2018. Et après un an, justement, il a commencé à restreindre certaines de ses obligations dans le cadre de l'accord. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui devraient, bien entendu, sans aucune condition préalable, réintégrer l'accord, rechignent à respecter leurs engagements. Et du côté des Européens, malheureusement, là aussi, il y a des atermoiements, en effet, pour permettre à l'Iran de bénéficier des avantages de l'accord nucléaire de 2015. Et malheureusement, dans certains cas, ils avancent des questions comme la capacité balistique de l'Iran ou encore ce que Maître Develay a appelé cette influence, entre guillemets, maligne de la République islamique d'Iran dans la région. Quel scénario les États-Unis et leurs alliés européens, à l'heure actuelle, sont en train de jouer pour tenter, en effet, non seulement de retarder ces progrès technologiques dans la République islamique d'Iran, mais aussi d'exercer davantage de pression sur l'Iran, d'autres pressions, d'autant plus que la stratégie de pression maximale de l'administration Trump, bien entendu, a été vouée à l'échec.
Écoutez, il faut savoir que l'émergence de l'Iran comme une grande puissance régionale et eurasiatique, c'est une catastrophe pour les États-Unis. 25 ans après s'être débarrassé de l'Irak qui jouait ce rôle-là dans les années 1980, ils sont maintenant confrontés à un danger beaucoup plus important, puisque la politique de l'axe de la résistance fait que l'Iran est bien loin d'être un pays isolé, etc. Mais il faut savoir que dès le départ, la sincérité n'existe pas chez les Américains et les Occidentaux. Ils expliquent par ailleurs dans leur TikTok, dans les vitrines légales de la CIA, etc., ils expliquent que le but des sanctions, c'est de ruiner l'économie iranienne de l'empêcher de développer justement cette politique de grande puissance, et ils espèrent que la misère et la pauvreté vont pousser la population à la révolte. Ils ont déjà tenté à 3 reprises une révolution de couleur dans votre pays, avec les domestiques habituels, les monarchistes iraniens, les soi-disant moudjahidines du peuple, etc., les différentes organisations terroristes. Moi, je me pose d'immenses questions depuis le départ sur la volonté véritable de faire respecter et appliquer ces accords qui, au contraire, feraient de l'Iran une grande puissance financière. Il faut savoir qu'il y a l'expérience de la Jamaria libyenne. La Jamaria libyenne, elle a eu un long embargo depuis le début des années 80 jusqu'à l'année 2003-2004. L'argent qui était placé sur des comptes bloqués, il a fait de la Jamaïria de Kadhafi une immense puissance financière qui lui a permis de développer une grande politique en Afrique et en Méditerranée. Les Américains et les Européens savent très bien que libérer les fonds qui appartiennent à l'Irak après ce nombre d'années, ça va libérer des fonds d'infiniment plus considérables que les sommes qui ont été débloquées il y a quelques années par les sanctions et les embargos. Dès lors, moi, je crois qu'il n'y a pas du tout, il n'y a aucune bonne volonté là-dessus. Le but, c'est de ne pas revenir aux accords. Je le dis sur vos antennes depuis le départ, je sais que le peuple iranien est plein d'espoir, je sais que vous espérez ce retour aux accords de Genève, mais les Occidentaux sont des voyous et il ne faut rien attendre d'un accord avec des voyous.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître Develet. Maître Develet, dans l'état actuel des choses, est vu justement cette mauvaise foi des parties occidentales. À quoi bon de continuer de négocier à quoi servirait le dialogue pour le dialogue si finalement, comme la République islamique d'Iran, alors la déclarer, si on ne peut pas attendre à des résultats tangibles, alors pourquoi il faudrait continuer, en effet, ces pourparlers, malheureusement, où les Occidentaux ont montré dès le départ qu'ils n'étaient pas sincères et qu'ils ne veulent pas respecter leurs engagements.
Alors, c'est une très bonne question, mais moi, je pense que c'est avant tout une question qui se porte sur les valeurs éthiques qui font d'un pays une civilisation qui peut ensuite rayonner et donner l'exemple. Dans le contexte qui nous importe aujourd'hui, je pense qu'il faut poursuivre toutes les voies possibles, légales et reconnues par la communauté internationale, pour essayer d'aboutir à un accord, mais surtout pour essayer de faire baisser les tensions. C'est l'objectif principal. Et dans ce contexte-là, tout doit être exploré et patience doit être mise en avant, ainsi que persévérance. Mais effectivement, s'il arrive un moment où il est clairement établi que ces discussions sont dans une impasse et que tout a été exploré dans ce sens et que la réalité, alors le grand qui doit être dégagé de cette séquence est celui que, effectivement, comme le disait Luc Michel, on ne discute pas avec des États voyous, la parole ne peut pas être respectée, et dans ce sens-là, ce ne sera pas la faute de la République islamique d'Iran.
Il nous reste 2 minutes, M. Michel, et pour vous, est-ce qu'il y a des chances de sortir de l'impasse actuelle ou bien la République islamique d'Iran a toutes les raisons de claquer une fois pour toutes la porte des négociations?
Écoutez, ça serait la solution, mais l'Iran n'est pas une puissance isolée. Elle appartient à l'Eurasie en marche. Elle a 2 puissants alliés qui sont Moscou et Pékin, qui se sont portés garants des accords de Genève. Et par correction pour ces alliés, l'Iran doit continuer à démontrer sa bonne foi. D'autre part, l'hostilité croissante de la Russie et de la Chine vis-à-vis d'Israël, le soutien à l'axe de la résistance au Liban et à l'Iran et à la Syrie, va à un moment donné ou l'autre conduire à poser la question de l'arme nucléaire israélienne. Et ce jour-là, l'Iran doit être parfaitement, je dirais, clean au regard de l'opinion publique internationale. C'est pour ça que je pense que l'Iran continuera les discussions, mais je crois que réellement votre diplomatie ne se fait pas d'illusions. On sent d'ailleurs un agacement qui est en train de monter puissamment dans les déclarations de la diplomatie iranienne, qui dit que maintenant il faut des gestes concrets.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le ministre algérien des Affaires étrangères à Ramtan Lamamra a exprimé la solidarité de l'Algérie avec le peuple et le gouvernement maliar. Lamamra s'exprimait à l'occasion d'une visite officielle à Bamako, au cours de laquelle il a été reçu en audience par Assimi Goïta, président de la transition au Mali, par son premier ministre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, m'a dépêché auprès du président de la transition et auprès du premier ministre pour témoigner de la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien, dans cette période de l'histoire contemporaine de votre nation avec laquelle nous avons un dessein commun, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision de souveraine du président Modibo Keïta en 1960, après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre armée puisse ouvrir un front contre le colonialisme, a indiqué le chef de la diplomatie algérienne. Il a en outre ajouté que nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Ils ont besoin de se libérer de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue civilisation de l'Occident, qui a été la couverture idéologique pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité. Cette décolonisation opérée s'annonce comme une priorité pour faire en sorte que ce que je qualifierais de faillite mémorielle que trahissent les propos concernant l'Algérie, le Mali, et qui ont été tenus récemment par les autorités françaises. Donc, cette faillite mémorielle qui pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays devrait pouvoir s'assainir par un aspect mutuel inconditionnel et acceptation de partenariat sur une base de stricte égalité, a souligné le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous nous tenons aux côtés du Mali frère. Nous appelons à qui veut bien nous entendre et entendre nos voix de la raison que l'Afrique, qui est le berceau de la civilisation, est également le tombeau du colonialisme et du racisme. Et la lutte de libération nationale et du peuple algérien a contribué à l'accélération de cette histoire et nous en sommes très fiers de cette contribution à l'émancipation du peuple africain, a martelé la même source. Il a ajouté que ceux-ci nous imposent le devoir de rester extrêmement vigilants, engagés lorsqu'il s'agit de préserver notre dépendance nationale, comme celle de nos pays frères, voisins et amis. Les destins du Mali et de l'Algérie sont étroitement liés et nous ne pouvons que témoigner notre solidarité agissante et travailler à régler ensemble nos problèmes pour que nous puissions projeter dans l'avenir avec confiance et convaincus que la solution de nos problèmes est entre nos mains. Ces déclarations du chef de la diplomatie algérienne interviennent dans un contexte de tension de la France, aussi bien avec le Mali qu'avec l'Algérie. L'ambassadeur de France à Bamako avait été convoqué par le ministère malien des Affaires étrangères en réaction aux propos du président français Emmanuel Macron à l'égard du premier ministre malien concernant le retrait de Barkhane. Aussi, l'ambassadeur de France à Alger avait été convoqué le 29 septembre par le ministère algérien des Affaires étrangères pour protester contre la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens. Le retour à la normale de la situation financière et économique tunisienne est prévu pour 2022, a estimé le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouen Abbassi, à l'issue d'un entretien avec le président tunisien Kaïs Saïed, reçu au palais présidentiel de Carthage. Abbassi a remis au président tunisien le rapport de la Banque centrale de Tunisie au titre de l'exercice 2020. Malgré les répercussions destructives de la pandémie de la COVID-19, la situation ne cesse de s'améliorer, notamment au niveau des exportations, de l'activité économique ainsi que les secteurs miniers et touristique. Citant le président Kaïs Saïed, le gouverneur de la BCT a indiqué que les engagements du pays avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se poursuivront avec le même sérieux nécessaire sur la base de véritables réformes, des programmes bien organisés et des concertations gagnant, a-t-il souligné encore. Des experts sont réunis pour 2 jours à Abidjan, Côte d'Ivoire, en vue d'élaborer une politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par les menaces sécuritaires et terroristes aux frontières du pays. Les problématiques à nos frontières renvoient à des enjeux essentiels dans la gouvernance de nos États, notamment dans la sous-région ouest-africaine confrontée au terrorisme, comme l'atteste l'actualité chaque jour, a déclaré Daouda Ouattara, conseiller spécial du Premier ministre ivoirien Patrick Achi à l'ouverture des travaux. Cette politique nationale de gestion des frontières, a-t-il expliqué, constituera un cadre de référentiel qui permettra au gouvernement ivoirien de disposer d'un outil explicite citant sa vision et de mettre en œuvre sa politique en matière de gestion et de développement des frontières terrestres, aériennes et maritimes du pays. De nos jours, les enjeux aux frontières obligent nos États à sortir des approches traditionnelles pour mettre en œuvre de véritables politiques de gestion de frontières, a relevé pour sa part le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Selon lui, la menace sécuritaire qui se déploie à grande échelle dans la sous-région ouest-africaine fait des zones frontalières de son point d'appui du fait de la fragilité de celle-ci. « En Guinée, le chef de la junte militaire et président de la transition, Mamadi Doumbouya, nommé Mohamed Béavogui au poste de Premier ministre pour conduire la transition guinéenne entamée depuis le 1er octobre, date de la prestation de serment du chef de l'État guinéen. Le nouveau Premier ministre de transition occupait jusque-là le poste de sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur général de la mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC, une institution de l'Union africaine. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de la Guinée portant sur la nomination du nouveau Premier ministre, cette émission s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.